On démarre à l'heure. Est-ce que tous les pouvoirs m'ont été remis? J'ai le pouvoir de Jean-Pierre Aveto et Michel Vendrin. J'ai le pouvoir de Marie-Laure Mayou et Géraldine Palcou, Isabelle Defay et Raphaël Laboissière et Vincent Poher et Farid Benzacour. C'est bon, tous les pouvoirs m'ont été remis, j'en ai pas d'autres. Donc tout va bien. Je vous propose de faire l'appel, si ça vous convient. Donc Christine Durand, Jérôme Merle, Jérôme Boiti, Di Castano, Brigitte Gallo, Jean-Pierre Serraillé, Sylvie Jeunin-Lomier, Michel Vendrat, Marie-Frédérique Viraphaël, Daniel d'Olivier Quintas, Mylène Gourgan, Jérôme Jacquino, Roxane Gonzalez, Ajra Turki, Mohamed Benahouga, Gaël Nicolas, Hervé Madigny, Assunta Rosin-Bedin, Benjamin Torelli, Françoise Jerziak, Jean-Philippe Vaux, Nathalie Levrat, Jean-Pierre Aveto. Alors Jean-Pierre Aveto, un pouvoir à Michel Vendrat. Jean-Pierre Aveto est en soins intensifs à l'hôpital, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Hein, comme il est en soins intensifs, on ne peut pas l'appeler ni le voir, en tout cas. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, en espérant qu'il s'en sorte rapidement. Amandine et Monchenvé, Thierry Masnada, Farid Benzacour, Marie-Laure Mayou, et un pouvoir, non ? Pouvoir à qui déjà ? Je me les ai enlevés, là, je les ai plus. Géraldine, oui. Protocole m'a déjà enlevé les pouvoirs. Raphaël Laboissière, présent. Franck Schneider, présent. Géraldine Palcou, présente, hein. Ouais. Isabelle Defay, il y a un pouvoir, hein. À Raphaël Laboissière, pouvoir Raphaël. Pierre-Manuel Chauvet, présent. Et Vincent Poher, pouvoir à Benzacour, à Farid. Ok, et bien, puisque tout le monde est là, on va faire passer le quai des présents. Il est en train de passer. Et puisque le quorum est atteint, je peux ouvrir la séance. Avant. Pardon ? J'ai pas compris. Ah oui. Je vais y arriver. Avant de démarrer, il nous faut nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Et ben voilà. Marie-Frédérique Diraphaël est volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires ? Eh bien, je vous propose d'approuver la demande de Marie-Frédérique pour être secrétaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Donc Marie-Frédérique Diraphaël est secrétaire. Avant de démarrer notre conseil municipal, je vous propose de faire une minute de silence pour Jean Faure. On a perdu notre sénateur qui après une maladie, il était lui aussi en soins intensifs. Et j'espère que ça a commencé comme ça. Il a fait 2 mois d'hôpital. Il avait un bacille qui est... Le staphylocoque doré, oui, qui était infiltré dans la colonne vertébrale. Il s'en est pas relevé. Et en tout cas, il est décédé. Ses obsèques étaient hier. Il y avait énormément de monde, bien entendu. Beaucoup de monde du plateau, mais également beaucoup de monde du sport, beaucoup de monde du ski, enfin du monde de la neige, hein, puisqu'il avait créé une école de formation pour les agriculteurs. Il y avait le PSGHM, il a été rapporteur sur la loi entre le rapprochement de la gendarmerie et de la police municipale. Il y a beaucoup d'actions, en tout cas, qui ont été relevées hier. Et comme c'était notre sénateur Lizère, qui est venu souvent à Sassenage, et il était présent, et notamment entre les années 2000 et 2015. Donc, mais je vous propose de faire une minute de silence. Merci. Deux autres infos, des explications, notamment sur l'accident que l'on a eu dans les cuves. Et pour donner des informations un peu complémentaires qui ne sont pas ressorties dans la presse, bon, vous avez tous connu un petit peu, et la presse a bien rapporté en tout cas les conditions, donc je ne vais pas y revenir. Juste pour préciser quand même que quand l'accident est arrivé, les cuves étaient fermées. C'est-à-dire que pour la mairie, les visites guidées, qui sont organisées notamment par la ville, en lien avec les collèges, et on a à peu près entre 50 et 60 collèges qui viennent dans l'année, c'est les grottes étaient fermées. C'est-à-dire que nous, on réouvre qu'à partir du mois de juin. On sait qu'au mois de mai, avril-mai, on sait qu'il y arrive. Il y a des problèmes notamment de montée d'eau assez rapide. Et nous, on n'organise pas de visite, en tout cas, pas avant le 1er juin. Donc les grottes étaient fermées. C'était pas une sortie d'école. Et je précise bien que c'était pas une sortie d'école, une visite guidée comme on a l'habitude de nous les mener. C'était une sortie spéléo. Spéléo à destination d'élèves de collège aussi, mais qui était organisé par le club de spéléo la fédération pardon de spéléo pour les élèves des collèges et cette sortie eh bien comme il y en a eu d'autres hein, c'est pas la première que la fédération des spéléo organise c'est encadré par trois spéléo confirmés et d'ailleurs le décès de Sabine Lorne, elle était confirmée, elle connaissait les cuves depuis une trentaine d'années. Il marche le micro, hein, ouais. Vous m'entendez au fond, ouais. Donc Sabine Lorne était confirmée, elle connaissait les cuves depuis une trentaine d'années, elle y allait très fréquemment. Et le problème, c'est que quand nous on fait des visites guidées, on met la lumière, il y a une lumière à l'intérieur, jusqu'à la salle Saint-Bruno. On a même mis à la salle Saint-Bruno depuis la classe qui était restée enfermée depuis 2002, on a mis un bivouac, c'est-à-dire qu'il y a des couvertures, il y a de quoi manger, il y a de quoi se réchauffer dans cette salle-là. Et le problème là, c'est que c'était une visite spéléo, donc sans lumière. Hein, c'est-à-dire que chaque gamin avait une lumière sur le front, une frontale, comme s'il allait faire de la spéléo, pas de lumière. Le problème, c'est pas la lumière. Le problème, c'est que nous, on a mis l'incident, parce que c'était resté un incident de 2002. De 2002, on avait fait faire, en lien avec un chercheur du CEA, on a installé des liminographes. Liminographes sont des appareils qui détectent les débits d'eau et qui avertissent à distance. Et on a des liminographes qui avertissent normalement la montée d'eau entre 3 et 4 heures avant que la montée d'eau arrive dans les enfers. Vous connaissez tous les cuves, ça fait un peu un siphon. Et avant que l'eau monte là, on a ce liminographe qui nous avertit. Le problème, c'est que pour que ces liminographes marchent, il faut mettre le courant et donc la lumière. Comme il n'y avait pas de lumière, les liminographes ne fonctionnaient pas. Les professionnels, en tout cas, les spéléos, connaissaient bien le problème, le système, encore une fois, hein, puisqu'ils ont l'habitude d'entrer. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça, que en tout cas, ce n'est pas une sortie organisée par la ville, que les sorties organisées par la ville sont bien encadrées et sécurisées, que là, on est totalement notre responsabilité, d'ailleurs il y a eu enquête, hein, notre responsabilité est totalement dégagée. Mais ce n'est pas le problème. En tout cas, il y a un décès et c'est le premier décès qu'il y a dans les cuves et c'est bien entendu à regretter. Le deuxième, c'est que j'ai entendu des bruits qui sortaient un peu des rumeurs et notamment des Sassingeoises qui me disent « Oui, mais moi, il y a ma fille qui connaît la fille 2 et qui est au collège de Saint-Imier et la gamine qui a été sauvée, elle est dans le coma à l'hôpital, depuis elle ne s'en sort pas. » C'est absolument faux. Il n'y a personne a été blessé, aucun gamin a été blessé. Tous les gamins s'en sont sortis, tous les enfants. D'ailleurs, j'ai eu la principale dès le vendredi matin du collège. Tous les élèves de la classe qui est sorti des cuves, tous les élèves étaient au collège le vendredi matin. Celle qui a glissé et qui est sortie en dernier, effectivement, elle a un bleu au genou, et ils étaient tous un peu mouillés, mais les parents ont été appelés, ils sont rentrés au collège en début d'après-midi. La principale, parce que c'est madame la principale, a appelé les parents qui ont amené des changes. En tout cas, ils étaient juste un peu mouillés, mais personne, absolument personne n'a été blessé. Ils sont venus au collège le vendredi, ils sont revenus le lundi, et même s'il y a une cellule psychologique qui a été mise en place par l'État et par l'éducation nationale, en tout cas, les élèves, pour eux, c'est resté une anecdote. Même si le décès De la spéléo, mais ils l'ont vu effectivement, mais uniquement à l'entrée, puisqu'après ils avaient la lampe, ils l'ont vu juste le temps de monter aux cuves et c'est tout, quoi. Ils ne la connaissaient pas plus que ça. Donc pour eux, c'est resté une anecdote, même s'ils en ont beaucoup parlé. Mais en tout cas, c'est pas vrai et je maintiens. Et la principale, et le maire d'ailleurs de Saint-Imier que j'ai eu également, et la principale que j'ai eu deux fois, ce que je l'ai rappelé le lundi, il n'y a aucun blessé. D'ailleurs, dans la presse, personne n'a dit qu'il y avait des blessés. Hein. C'est uniquement des rumeurs qui ont couru. Voilà, je voulais rectifier ça, c'était important, en tout cas, pour éviter les fausses rumeurs. Nous, quand on fait nos sorties, les sorties sont encadrées et sécurisées. Bon, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais en tout cas, on a tout fait pour éviter cet accident. Il y a un téléphone, d'ailleurs, pour avoir une liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Les professionnels connaissaient l'endroit du téléphone. On a appelé plusieurs fois, personne n'a répondu. Bon, voilà, c'est uniquement ça. Encore une fois, les sorties que l'on fait, on va réouvrir, puisque l'enquête se termine et j'attends l'avis du préfet. Normalement, on devrait nous réouvrir le 1er juin, les cuves, comme à l'habitude. Bon, on sait que malgré cela, et beaucoup d'écoles ne viendront pas. C'est dommage parce que les cuves de Sassenage sont réputées pour avoir un vrai intérêt géologique et notamment pour découvrir un peu la géologie du Vercors. Et c'est pour ça que cette grotte intéresse les élèves de 5e parce que c'est dans le cursus des élèves de 5e de connaître, c'est dans leur cursus pédagogique du 5e pour connaître la géologie. Ils apprennent la géologie et le Vercors, enfin la montagne en tout cas, est un élément important. Donc on sait qu'il va y avoir une baisse comme il y a eu en 2002 et puis que ça reprendra derrière. En tout cas, on va regarder à nouveau avec les spéléo secours, avec tout le monde pour encore mieux sécuriser si on peut. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il faut essayer de trouver les failles et pourquoi et comment. On a fermé, on est en train de regarder et de voir comment on va gérer, puisque ces professionnels et spéléo, on avait une convention avec la fédération, ils ont accès, ils ont un badge, hein, ils ont accès, puisque les cuves sont clos par une grille et il faut un badge pour accès. Ils avaient un badge, on a supprimé le badge à tout le monde et on va regarder, on a mis même un cadenas en plus, et on va regarder à qui on attribue ces badges et on va rencontrer la fédération de spéléo pour voir avec eux comment on peut gérer ça pour éviter. Mais on le voit bien, et je l'ai dit, et je terminerai par ça, on sait bien que les vrais professionnels, à un moment, ils ne se rendent plus compte du risque. On le voit pour les navigateurs, on le voit pour les alpinistes, à un moment, ils prennent un risque, ça passe, deux fois, ça passe, trois fois, puis la quatrième fois, ça ne passe pas. À un moment, ils n'ont plus cette connaissance, cette conscience du risque, et c'est à nous de les prémunir de cette prise de risque qu'ils ne doivent pas prendre. Voilà. Donc on va voir encore une fois avec la Fédération de Spéléo pour encore sécuriser l'entrée au Spéléo. Donc voilà, c'était une information importante que je devais vous dire. Donc portez ce message. En tout cas, les grottes étaient fermées et elles seront ouvertes. Et c'était une sortie Spéléo, pas une sortie d'école. D'ailleurs, on a eu l'année 4, hein, qui est l'Association nationale des grottes en France, hein, qui bien entendu soutient notre version et confirme notre version. Après, eux aussi, ils ont fait une enquête après enquête. Deuxième information, on a eu un incendie dimanche soir, incendie d'une entreprise qui est Précis Mécanique, qui est derrière Sony Plumaz, dans Groupe Pyramide, là-bas. Précis Mécanique, qui est une entreprise de mécanique assez performante et très réputée, en tout cas dans la région, même en France, mais surtout dans la région. Ils font de la mécanique de précision. L'entreprise, c'est un incendie accidentel. Hein. Il y a eu là aussi enquête de la gendarmerie. On n'a pas le résultat final, mais j'ai rencontré les gendarmes. Bon, visiblement, l'incendie est parti du coffret électrique, comme beaucoup d'ailleurs d'incendies quand ça part, c'est du coffret électrique. Donc, on est intervenu auprès de l'entreprise, qu'il y ait 40 salariés qui se trouvaient, bien entendu, au chômage technique. On est intervenu tout de suite pour les aider, pour trouver des solutions. On est intervenu auprès de la métro pour trouver des locaux de remplacement, puisque je vous rappelle que c'est la métro qui a la compétence activité économique. La métro qui s'est mobilisée tout de suite pour essayer de trouver des locaux, mais entre-temps, il y a une solidarité des entreprises autour, notamment de Germain Debon, notamment de, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui est derrière, de Saunier Plumaz également, où ils ont dégagé, il y a une entreprise qui avait, notamment Germain Debon, qui est une entreprise d'électricité, qui avait un peu moins de boulot et donc de la place dans ses locaux, qu'ils ont dégagé tout de suite de la place pour mettre des machines. Germain Debon, le patron, a essayé de trouver des machines d'occasion qu'il a trouvées, qui ne sont pas aussi performantes que celles qu'il avait. Il avait investi d'ailleurs une somme assez importante pour acheter des machines de précision avec robots. Enfin, tout le personnel s'est mobilisé. Ils sont prêts à faire. Ils ont tout de suite proposé de faire les 3-8 pour sauver leur entreprise et pour rendre, en tout cas, répondre aux attentes des clients et répondre au marché qu'ils avaient en cours. Donc, il y a eu une vraie solidarité qui s'est mise autour de cette entreprise. Ça a vraiment marché. Et c'est à saluer d'abord les salariés, mais également le chef d'entreprise, qui est Claude Nicolas, qui a cette entreprise. Il l'a rachetée il y a plus de 20 ans, en tout cas. Et qui mène bien cette entreprise, performant. Et l'année dernière, ça ne marchait pas bien avec le Covid. Et là, cette année, c'était bien reparti avec un carnet plein de commandes. Il a fallu qu'il arrive ça. Donc, il était un peu, pendant un cours, il était assez dépité. Et puis, moi, le matin, il s'est bien remis en forme pour mobiliser tout le monde. Bien entendu, les assurances vont intervenir. Mais ce n'est pas ce qui l'a intéressé tout de suite. L'intérêt, c'était de répondre à la demande de ses clients. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc, il faut saluer cette solidarité auprès d'abord des entreprises environnantes, de la métro qui s'est mobilisée et bien entendu de la ville également. Voilà, j'ai pas d'autres. Ah si, il y en a une dernière, mais qui est moins grave. On a eu la foudre qui est tombée sur la cheminée de l'école Vercors. C'était samedi soir, là. Ouais, c'était dimanche aussi. C'était dimanche soir. Ouais. Donc, ouais, la foudre, c'était dimanche soir et l'incendie, c'était lundi, mardi. Ouais, c'était 2 jours après. Ouais. Cette semaine, c'était un peu garni. Ouais. Donc, la foudre qui est tombée sur la cheminée de l'école Vercors dimanche soir et qui a détruit totalement la cheminée et qui a détruit à peu près 8 mètres carrés du toit des tuiles. Donc là, les pompiers, bien entendu, sont intervenus. Et là, on a eu beaucoup de chance, grâce au bâtiment d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu d'incendie. Souvent, quand la foudre tombe sur un bâtiment, ça met le feu, on le voit. Hein. Fréquemment dans les journaux où ça a mis le feu à des maisons ou des bâtiments. Là, il n'y a pas eu de départ d'incendie. Il y a eu juste destruction du toit et de la cheminée. Donc, les pompiers sont intervenus pour sécuriser le toit et les services techniques de la ville sont également intervenus le soir, service d'astreinte, le dimanche soir pour purger en tout cas et puis le lundi matin de bonne heure pour que les enfants puissent reprendre l'école sans risque aucun. Voilà, donc ça c'est bien terminé de ce côté-là. Voilà, c'en est tout et c'est tout et j'espère que ça s'arrêtera là, qu'on n'en aura pas d'autres. Mais c'est la vie d'une commune. J'ai pas eu de questions du groupe S'unir pour Sassenage, ni des autres groupes, ni du groupe pour Sassenage, ni pour Sassenage une fierté partagée. Je pense que les questions arriveront au fur et à mesure des délibérations. Il nous faut voter le compte-rendu de notre conseil municipal du 16 mars. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu, des amendements, pas de questions? Vous l'avez tous lu, vous le connaissez par cœur. Donc je vous propose de le voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Merci. Il est adopté à l'unanimité. Point suivant, j'ai les décisions que j'ai prises depuis un certain temps, depuis le dernier conseil municipal, donc la 04, la 2204 jusqu'à la 22-13. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions? Oui, Madame Pincou.
Bonsoir, oui. Les questions habituelles concernant les conventions d'occupation précaire et révocable, est-ce qu'on peut avoir les noms, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Alors, la dernière fois, on ne les a pas eues. Hein. Donc, si on peut avoir
Pardon
les noms aussi.
Ah.
Les noms aussi
on
du
les donnera, c'est des renouvellements, de toute façon, mais il n'y a pas de souci.
D'accord. Et puis, une autre question concernant l'avis qui est donné pour l'exercice d'un droit de préemption sur un logement de la commune. Comme c'est la première fois qu'on voit passer ce genre de décision et que c'est quelque chose qui nous paraît vraiment tout à fait profitable pour Sassenage, on aimerait juste savoir est-ce qu'il y en a eu d'autres par le passé de préemption de ce type?
Ouais,
et est-ce qu'il y en aura d'autres en fait? Enfin, quelle est la fréquence et,
Ça dépend des ventes. Voilà. Et on regarde quand la vente, on suit bien entendu toutes les préemptions. Et vous savez, quand il y a préemption, on fait intervenir le PFL. Le PFL qui... puisqu'il a la mission, en tout cas, de gérer les préemptions pour les collectivités. Ensuite, le PFL contacte les bailleurs sociaux Et quand si un bailleur social est intéressé, ben, il donne suite. S'il n'y a pas de bailleur social intéressé, il ne donne pas suite. Donc on regarde, et là, ben, par expérience, on regarde les prix, le type de logement et le prix. Quand ce sont des logements qui sont trop chers, trop récents et trop chers, ben, ce n'est pas la peine d'aller sur une préemption parce qu'il n'y aura pas de suite. Par contre, quand le prix paraît intéressant, on regarde... Au regard de la surface, au regard du lieu, etc., et bien on demande des préemptions. Vous allez en voir d'autres. Hein. C'est effectivement la première, mais il y en aura d'autres. On a lancé d'autres. En ce moment, il y a pas mal de ventes. Donc il y a quelques-unes. Alors quand je dis beaucoup, alors il peut se passer un an ou deux sans qu'il n'y en ait pas. Et puis un jour, en tout cas, toutes les ventes, on reçoit une DIA, hein, donc la demande d'intention d'aliéner qui passe par la mairie. Donc quand vous signez un compromis, le notaire... à ordre de transmettre, de faire une demande de DIA à la mairie, puisqu'on a le droit de préemption. Et nous, derrière, ben, on regarde. Alors, quand on n'est pas en carence, quand on est en carence, c'est pas nous qui décidons, c'est le préfet. Ça part directement chez le préfet, c'est le préfet qui décide si préemption ou pas. Et lui, il consulte les bailleurs, comme nous d'ailleurs, et donne suite que si un bailleur donne suite. Donc voilà, pour l'instant, ben, oui, c'est la première. Et puis on verra s'il y a suite. En tout cas, on a fait une demande de préemption à l'EPFL. Mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que j'en ai vu d'autres passer qui sont intéressantes.
Merci.
J'ai répondu à votre question, madame Pécou. Bien, ben, en tout cas, ça sera affiché et puis je vais noter pour donner les noms aux élus. Ok, tout ça a été vu. On arrive à la première délibération, délibération numéro 1, concernant ben, un remplacement puisque... Jérôme Boïti dit que Sano n'est plus adjoint, donc il fallait remplacer son poste. Alors pas son poste d'adjoint, puisque je vous rappelle que pour avoir des conseillers délégués, il faut que tous les postes d'adjoint soient pourvus. Donc Daniel d'Olivier Quintas, qui était conseiller délégué aux finances, et en fait, quand les finances sont un élément important en tout cas... structure importante de la collectivité, hein, puisque c'est la gestion politique, en tout cas des actions de la ville. Et j'ai proposé à Daniel d'Olivier Quintas eh bien de prendre ce poste d'adjoint, de passer donc conseiller délégué aux finances, adjoint aux finances. Donc normalement, on peut voter. Alors, je vous propose en tout cas de voter à main levée. Si y en a un qui demande un vote à bulletin secret, tout est prêt, on peut faire un vote à bulletin secret. Jérôme, où est-il ?
Oui, conformément à ce qu'on s'était dit, monsieur le maire, donc le groupe donc, pour Sassenage ne prendra pas part donc, au vote, ainsi que sur les cinq premières délibérations.
Les cinq ou les quatre ?
Ben, il y en a cinq, il me semble.
La 5, c'est quoi ? Oui, c'est l'ALEC, remplacement à l'ALEC ? Non ? D'accord.
Ça, oui.
Il y en a plus, alors. D'accord, 5, oui. Ok, ben, il y avait effectivement sur la solution de ne pas prendre part au vote ou de s'abstenir. Bon, finalement...
Non, mais on ne prendra pas part au vote. On estime que c'est des délibérations qui concernent uniquement, on va dire, l'organisation interne du groupe pour une fierté partagée.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Est-ce que personne demande de vote à bulletin secret ? Non. Donc on vote à bulletin, on vote à main levée. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 8 abstentions. Est-ce qu'il y a des oppositions ? D'accord, donc la délibération est adoptée, moins 8 abstentions et 2 NPPV. Ok, délibération numéro 2 concernant l'indemnité de fonction du nouvel adjoint. Bon, en fait, c'est la même indemnité, hein, qu'ils soient conseillers délégués. Les conseillers délégués qui font partie de l'exécutif ont la même indemnité que les adjoints. Donc, il n'y a pas d'augmentation ni de réduction. On aimerait bien qu'il y ait réduction, mais non, c'est pas possible. Donc, les adjoints gagnent la même chose. C'est le même travail, en tout cas, puisqu'ils font partie de l'exécutif. Donc, eh bien, donc c'est 21,32% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Donc, il faut qu'on prenne une délibération pour lui transférer ça pour le Trésor public. Est-ce qu'il y a c'est donc une délibération administrative, hein, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Des oppositions, des abstentions, 8 abstentions et 2 NPPV ? Hein, OK. Pareil pour la 2. La 3. La 3, il faut, puisqu'on a supprimé la délégation et Jérôme Boëti, il faut le remplacer dans certaines instances extérieures qui doivent être représentées par des élus du groupe majoritaire. Et il y avait Jérôme Boëti était suppléant au CEN, donc au Conservatoire des espaces naturels, et je propose de le remplacer, hein, puisque Jean-Philippe Vaux reste titulaire et il remplit bien sa mission. Donc c'est de le remplacer au cas où vous serez absent. J'espère le moins possible, en tout cas, parce qu'il connaît bien le CEN, il est très présent et il connaît bien la structure. Donc voilà, il faut un suppléant, hein, parce que c'est le CEN qui le demande. Donc je me suis proposé, est-ce qu'il y a des abstentions, des abstentions 8 et 2 NPPV ? Pas d'autres ? C'est bon, merci. Délibération numéro 4. Pareil pour le parc naturel régional du Vercors. Là, c'est Jérôme était titulaire. Et je suis suppléant, donc on propose de remplacer Jérôme par Michel Vendrac, qui a déjà assumé cette fonction lors du dernier mandat, de 2014 à 2020. Il était au parc du Vercors, donc il reprend cette mission. Il est déjà bien chargé, mais bon, il prend cette mission avec plaisir. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pardon, est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Des abstentions 8, des NPPV 2, et tout le reste, c'est pas d'opposition. Merci. Délibération numéro 5, la même chose pour l'ALEC. L'ALEC où Jérôme Boëti représentait la ville. Donc je vous propose de. Et c'est Jérôme Merle qui s'est proposé, puisqu'il y a un lien entre l'ALEC et la métro. La métropole, comme Jérôme est à la métro, il s'est proposé pour remplacer Jérôme à l'ALEC, pour lequel j'étais d'accord, mais que je vous soumets. Est-ce qu'il y a des abstentions 8 des NP... Oui, c'est bon. J'ai compris. 8 abstentions, 2 NPPV. Pas d'opposition, merci. Délibération numéro 5 adoptée. Délibération numéro 6. Donc, il y a un avenant à la convention d'honoraires avec notre avocat sur l'affaire Dexia. Donc, bien entendu, je vous rappelle hein, quand même l'affaire. En première instance, on avait perdu. On est allé en appel. On avait gagné une réduction de 30%. On est Dexia avant cassation. En cassation, il nous renvoie en cour d'appel, la même cour d'appel, avec le même président d'ailleurs du juge. On n'est pas aux États-Unis, le même juge et par contre pas les mêmes assistants. Mais en tout cas, la décision a été totalement à l'inverse. Il nous renvoyer en cassation, on retourne en cassation. Nous avons décidé d'en rester là parce que, bon, de toute façon, on allait encore y passer des années et on n'allait pas s'en sortir. Donc on avait versé, quand on avait eu la réduction de 30%, conformément à la convention, on avait versé les 30% à notre avocat. Enfin, pas les 30%, non, pardon. On avait versé la part que l'on devait à notre avocat, qui se montait un peu plus de 200 000 euros, 206 000 euros. Et bien entendu, comme on n'est pas allé en cassation, eh bien, elle doit nous rendre cette part. Dans cette part, il y avait des honoraires qui étaient hors convention, notamment 5 000 euros qui étaient sur les honoraires d'appel et qui ne faisaient pas partie de la convention. Il y avait des actions qui étaient hors convention, notamment on lui a demandé de venir quand on a fait les premières réunions publiques pour informer la population. Et elle était venue nous assister. Et là, c'était hors convention. Donc les frais de déplacement et les frais d'assistance, ces heures qu'elle a passées ici. Il y avait des prestations politiques qu'on avait demandées, ses déplacements également. Et également une étude qu'on l'avait chargée au début de faire une étude. Parce que je vous rappelle quand même que ces prêts, ces emprunts à Dexia, ce n'étaient pas des emprunts pour des investissements, sur des investissements que l'on avait lancés nous. C'était tout un tas d'emprunts du mandat précédent, du mandat avant 1995. Et c'était un remaniement de ces prêts-là que Dexia nous avait proposé. Et pour arriver à retrouver, c'était une telle machination qu'on n'arrivait pas à retrouver exactement d'où venaient ces emprunts, quand, comment, puisqu'il y avait une mixture qui avait été faite par les banques. Et donc, elle nous avait proposé de prendre un technicien, et on avait accepté. Et là, bien entendu, c'était hors convention, un technicien qu'elle a payé, elle, et qui nous a refait un tableau pour nous remettre en clarté tous les emprunts de manière à ce que ça nous serve pour le tribunal. Donc voilà, deuxième chose, on a quand même interrogé la CADA, puisque c'est une relation entre entre l'avocat et puis nous. Et la CADA confirme, on l'a interrogé, la CADA confirme que on n'a pas à fournir ni les conventions entre l'avocat et le maire, entre l'élu en tout cas et l'avocat, ni les frais en tout cas qui sont hors convention, et c'est confirmé par la CADA. Il y a même eu des jurisprudences qui sont allées jusqu'en cassation, et ça a été confirmé en cassation, donc ça reste du secret professionnel de l'avocat. Voilà. Donc nous, on ne peut pas le fournir, puisque c'est le secret professionnel de l'avocat. Voilà, ça reste là. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette... Donc on va rendre, pardon, elle va nous rendre les 206 000 euros, moins 17 562, qui date de juin 2022 à janvier 2023, et 17 566 en février... qu'on déduira en février 2023. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, monsieur Laboissière.
Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Depuis les débuts du contentieux qui opposait Sassenage à la banque Dexia, actuelle CAFIL, autour des emprunts toxiques, vous n'avez toujours dit que l'SCP, le Coq, Vallon, Ferron, Polony travailleraient gratuitement pour nous et qu'ils ne toucheraient des honoraires que dans les cas d'issue favorable pour la commune. Or, par arrêt du 4 octobre 2018, la Cour d'appel de Versailles a mis un jugement défavorable à la commune de Sassenage. Au moins, je l'interprète défavorable, parce que c'est bien en deçà de notre demande initiale d'annulation de deux emprunts toxiques contractés auprès de Dexia. En effet, d'après cet arrêt, 70%, comme vous avez dit, du surcoût des intérêts toxiques restait à la charge de Sassenage, tandis que seulement 30% restait à la charge de la CAFIL. Alors, estimons que cette maigre ristourne des 30% constitue une victoire pour notre commune. Vous vous êtes empressé de payer les 206 783 euros TTC à titre d'honoraire pour nos avocats. Bon, cette précipitation est encore plus étonnante vu que la CAFIL s'est pourvue en cassation et que l'affaire n'était pas finie. Bon, aujourd'hui, la commune de Sassenage demande le remboursement des honoraires parce que nous avons perdu définitivement les contentieux judiciaires. Nous constatons alors avec surprise que le cabinet d'avocats ne va pas restituer la totalité des honoraires payés, mais retiendra une somme de 48 720 euros TTC, dont plus de 42 000 apparaissent au titre de, je cite, « prestations hors convention d'honoraires » selon les termes de l'avenant joint à cette délibération. Or, le texte de l'avenant n'est pas très clair parce que nous y lisons à page 2, je cite de nouveau, soit un total d'honoraires dû à SCP Le Coq Vallon et Ferron Polony d'un montant de 40 600 euros hors taxe. Voici donc la première question que nous vous posons. En fin de compte, les avocats ont-ils vraiment travaillé gratuitement pour Sassenage, comme vous avez affirmé à maintes reprises? Alors, et si jamais vous avez donné l'explication maintenant que vous venez de donner sur la CADA, que vous avez saisi la CADA, mais nous aimerions quand même savoir de quoi il s'agit ces prestations hors convention. Soit donc vous nous fournissez donc tous ces documents que la CADA vous a communiqués, ou sinon, les cas échéants, que vous nous présentez toutes les factures justificatives pour justifier ces dites prestations et donc pour prouver que ce n'était pas des honoraires. Donc ils ont effectivement travaillé gratuitement pour nous. Donc au vu de manque de clarté et d'éléments autour de cette délibération, le groupe Sunip Sassenage s'abstiendra du vote.
Alors, je crois que vous n'avez pas bien entendu, je viens de vous dire à quoi ça correspondait. Donc, je veux bien répéter encore une fois, mais j'ai déjà précisé à quoi ça correspondait. Deuxième chose, je vous rappelle que quand il y a une décision en appel, d'aller en cassation, ce n'est pas suspensif, c'est-à-dire que c'est applicable. Donc, c'est pour ça qu'on a, d'ailleurs tout de suite, la CAFIL nous a déduit les 30% dès le résultat de la cour d'appel. Et bien entendu, l'avocat a demandé son dû, ce qui était normal. Et on ne va pas en cassation, ce n'est pas suspensif encore une fois. Donc on a payé ces 206 000 qui aujourd'hui, elle nous le rembourse, l'avocat nous rembourse, moyennant une retenue qui correspond, je viens de vous le dire. Et d'abord, ce n'est pas des honoraires, c'est des frais de conseil uniquement et ce n'est pas des honoraires. Donc effectivement, sur les honoraires, l'avocat ne nous a rien coûté à la commune. La preuve, c'est qu'elle nous les rembourse. Par contre, il y a les frais d'honoraires. Et sur 10 ans de procédure, 40 000 euros, enfin bon, ça représente rien. Je ne sais pas si vous pratiquez les avocats, mais 40 000 euros, ce n'est pas des honoraires et ça ne correspond pas en tout cas à des honoraires. Je vous ai dit à quoi ça correspondait. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge et la CADA. Après, vous pouvez demander à la CADA, vous le redemandez, il n'y a pas de souci. Vous avez accès à la CADA, vous l'avez déjà fait. Donc vous avez l'adresse, vous savez à qui vous adressez. Vous leur demandez, ils vous donneront tous les éléments qu'ils nous ont donnés. Et comme quoi, il y a encore une fois, il y a secret professionnel de l'avocat, je n'ai pas le droit de vous le fournir. Si moi, je vous l'aurais bien fourni, il n'y a aucun problème. Mais d'abord, on n'a pas le droit de vous le fournir, c'est secret professionnel de l'avocat, encore une fois. Voilà, et quand vous dites qu'on a perdu, on a, encore une fois, là, c'est une fausse information, on n'a pas perdu, on a arrêté la procédure. C'est-à-dire que la cour d'appel dit, on vous renvoie en cassation. On n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'il dit, bah, ok... Moi, pour moi, c'est comme ça, et c'est la cassation qui décidera. On a décidé d'arrêter. C'est nous qui avons décidé. Donc, on n'est pas, on n'a pas perdu. On a décidé d'arrêter la procédure. On ne savait pas si on allait gagner ou si on allait perdre, mais en tout cas, on n'a pas voulu prendre le risque. Encore une fois, ça faisait 10 ans et ça suffit, quoi. Il fallait arrêter cette affaire. Donc voilà. Voilà pour les réponses que je vous devais. Pas d'autres questions ? Mais je vous propose de passer au vote. J'ai noté que vous alliez vous abstenir. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention. J'aurais dû aller plus vite. Donc 8 abstentions. Pas d'opposition. Merci. Délibération adoptée. Délibération numéro 7 concernant un avenant numéro 2 portant augmentation du montant maximum sur l'exécution, en tout cas du marché, concernant un groupement de communes pour Sassenage-LCSS sur la mise à disposition de personnel intermédiaire et temporaire, et notamment avec la GI en ce qui nous concerne. Bon, je rappelle que cette délibération, elle est prise parce qu'avec le Covid, on a eu une augmentation d'absence, de personnel absent, comme toutes les communes, parce que j'ai demandé aux collègues dans les communes, d'ailleurs pas que dans les communes, mais en tout cas dans toutes les communes, d'ailleurs AGI, à un moment, comme toutes les entreprises de personnel temporaire, et notamment pour les collectivités, ont eu du mal eux-mêmes. Ils ont eu du mal à trouver du personnel. Alors, comme on est client depuis longtemps, ils nous ont un peu privilégiés. Mais en tout cas, on a dépassé le marché, puisque le marché était un montant maximum de 480 000 euros. Donc sur 2021, on a dépassé ce marché-là et on n'a pas pu payer AGI, puisque à partir du moment où on dépasse le marché, la trésorerie bloque. Donc il faut prendre une délibération, un avenant, pour que la trésorerie puisse payer AGI. Et je rappelle qu'AGI, normalement, il faut le payer en fin de mois parce que c'est du personnel, ce n'est pas du matériel qui livre, c'est du personnel. Donc lui, AGI, doit payer son personnel, et qu'il a payé d'ailleurs. Donc il nous a fait une avance de 73 500 euros que l'on doit à AGI. Donc il nous faut prendre cette délibération pour qu'AGI soit payé. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Palcou.
Monsieur le maire, chers collègues, il est dit dans la délibération que cet avenant s'explique par le fait que la collectivité n'a pas échappé à la crise sanitaire et a connu une augmentation importante des absences liées au Covid dans le secteur scolaire et le secteur de la petite enfance. Certes, le contexte de Covid-19 a été délétère en termes d'absentéisme et a pour conséquence, comme vous venez de le faire remarquer, une augmentation de 15% de la commande du marché public. Nous souhaitons néanmoins vous faire part d'une remarque. Au-delà de cette crise, vous savez, monsieur le maire, qu'un autre absentéisme récurrent existe à Sassenage, celui qui résulte d'une souffrance au travail, obligeant certains agents à se mettre en retrait de leur activité. Dans son dernier rapport, la Cour régionale des comptes a déjà relevé cela, avec pour mémoire un taux d'absentéisme compressible de 9,2% sur la commune contre 6,2% en moyenne ailleurs. Nous vous avons d'ailleurs demandé un certain nombre d'éléments concernant ce sujet par mail en date du 12 mai 2022. Et comme nous l'avons indiqué dans le dernier Sassenage en page, nous vous demandons un audit indépendant afin d'évaluer ces situations de souffrance et mettre en place de réelles actions visant une amélioration des conditions de travail de nos agents communaux.
Ouais, j'allais en parler sur nos délibérations de votre texte, mais puisque vous en parlez, vous l'avez signalé dans Sassenage en page, j'estime, moi, que ce texte est discriminatoire pour les personnels. Moi, en tout cas, il n'y a pas de souffrance dans les personnels. J'ai fait un tour. Le directeur général a fait un tour des personnels. Je ne sais pas d'où vous avez pris ça, mais il n'y a pas de souffrance dans les personnels. Il y a peut-être effectivement deux ou trois personnes, comme dans toutes les collectivités, comme dans toutes les entreprises, et deux ou trois personnes qui sont effectivement, qui ont eu des problèmes avec la collectivité ou qui sont en souffrance dans leur travail, mais il n'y a pas de souffrance générale, en tout cas. Donc le taux d'absentéisme n'est pas anormal par rapport à ce qu'on avait avant le Covid et depuis de nombreuses années. On a travaillé avec le service RH depuis de nombreuses années sur ce problème et d'ailleurs avec les représentants du personnel sur ce phénomène d'absence. On a engagé des solutions qui ont marché quelques années, qui ont plus marché. On était prêts. D'ailleurs, on avait relancé le programme sur l'absentéisme, sur la réduction de l'absentéisme. Le Covid est passé par là. Et effectivement, on n'a plus rien maîtrisé pendant le Covid. Mais au-delà du Covid, je ne vous permets pas de dire que le personnel est en souffrance. Voilà. Et puisque vous l'affirmez, je ne sais pas d'où vous le tenez, mais je trouve que c'est indécent et irrespectueux vis-à-vis du personnel de la ville. Donc, encore une fois... quand on annonce et quand on affirme des choses, il faut être sûr de ce que l'on dit. Donc, c'est pas en rencontrant une ou deux personnes ou trois personnes que vous pouvez généraliser sur la gestion du personnel et l'ambiance du personnel dans la ville. Aujourd'hui, l'ensemble du personnel, encore une fois, est totalement satisfait, remotivé. Il y a eu une période difficile, effectivement, mais aujourd'hui, il est remotivé et le personnel vient au travail, en tout cas, avec envie. Donc, encore une fois, quand vous affirmez des choses, essayez de réfléchir deux fois. Et tournez, comme disait mon père, tournez cinq fois la langue dans votre bouche avant de parler. Voilà. Et surtout avant d'écrire. Mohamed Ben Aouga.
Merci, monsieur le maire. Juste deux choses très importantes. La première, c'est que la Cour des comptes régionale... vous avez aussi oublié de dire ce qu'effectivement il a mentionné, a signalé par rapport donc à nos agents ici, la qualité du travail, l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et ça, c'est dommage effectivement que vous preniez juste ce point-là et que vous ne parlez pas des autres points. Deuxièmement, j'aimerais bien juste rappeler trois points essentiels quand même. Et effectivement, ça, c'est des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure au sein de notre mairie pour notre personnel. Je rappelle, il y a le REFCEP, d'accord, qui est un coût total de 74 400 par an. Donc ça, c'est très important aussi de signaler. Ça, c'est pour le personnel de notre mairie, d'accord, pour qu'il puisse être toujours dans les meilleures conditions. Deuxièmement, il y a l'augmentation de la valeur mensuelle attribuée pour les titres restaurants. Ça aussi, il faut le signaler. C'est des choses, effectivement, que nous avons mis en place. Je ne rentre pas dans le détail des montants, mais ça, vous pouvez le trouver et vous pouvez discuter avec les agents et ils vous diront, effectivement, qu'ils sont très contents de toutes ces mesures que nous avons prises pour eux. Troisième point, il y a le réaménagement et la réhabilitation des locaux pour améliorer les conditions de travail. On est en train de le mettre ça en place et vous allez voir les résultats bientôt, évidemment. Et encore une fois, vous pouvez discuter avec le personnel parce que, comme l'a dit monsieur le maire, écrire un article, c'est très facile, mais derrière les lignes et derrière l'article, il faut vraiment réfléchir parfois longuement pour avant, effectivement, d'avancer des choses parce que ça va au-delà de ce que vous pensez d'une manière politicienne. Parce que je sais que vous, souvent, vous réfléchissez d'une manière politicienne. Et nous, en fait, on n'agit pas de cette manière-là. Nous, on agit vraiment pour Sassenage, pour ses habitants et pour le personnel de notre commune. Et finalement, le dernier axe qui est très important et que nous poursuivons en parfaite collaboration avec notre DGS, c'est l'organisation des services, qui est un point très important qui émane des personnels qui travaillent au niveau de la mairie, qui ont demandé qu'il y ait une organisation, qu'il y ait un réaménagement des espaces. Et c'est ce qui est en train de se faire et qui va se poursuivre et le résultat va être apprécié d'ici quelques temps. Mais encore une fois, s'il vous plaît, soyez vraiment, vraiment, vraiment très attentifs à ce que vous dites et à ce que vous racontez parce que ça peut aller au-delà de ce que vous imaginez sur le plan politique. Merci, monsieur le maire.
Effectivement, c'est déplacé, c'est trop facile de faire de la politique sur le dos des personnels. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Madame Palcou? Oui, puis après Jérôme.
Je me permets juste de dire que nous ne partageons pas la même opinion et que nous sommes dans notre rôle d'avoir une opinion aussi. Et donc nous avons connaissance de situations de souffrance au travail. Nous continuerons dans ces investigations.
Oui, mais il ne faut pas généraliser encore une fois. Quand vous avez des situations, on les connaît, ces situations, on les maîtrise, on les gère. Mais il ne faut pas généraliser quand il y a deux ou trois personnes qui sont effectivement dans des souffrances, d'autres qui ne sont pas tout à fait satisfaits, mais 90% du personnel, en tout cas, est satisfait des conditions de travail et de l'équité qui a été remise en place, de la clarté, en tout cas, dans les missions, de la clarté dans les salaires. Et effectivement, comme l'a dit Mohamed, une augmentation sur les tickets restaurants, une augmentation sur les personnels des catégories C, qui ont été augmentées, hein, qui ont eu une augmentation à peu près tous entre... Soit ils sont restés au même niveau, soit une augmentation qui va jusqu'à 120 euros par mois, donc c'est pas rien. Donc le personnel aujourd'hui est satisfait, il n'est pas en souffrance. Et encore une fois, on ne prend pas un cas particulier pour généraliser. C'est le défaut de la politique de prendre un cas particulier et de généraliser. Donc nous, on affirme, en tout cas, je l'affirme haut et fort ce soir, que le personnel n'est pas en souffrance et que ça va aller encore de mieux en mieux. Voilà. Et que les quelques cas, eh bien, on est en train de les gérer, et on les connaît bien, et on les gère et avec le médecin, et avec les spécialistes en la matière. Jérôme Jacquinot demandait
la parole. Oui, je voulais juste, bonsoir à tous, je voulais juste rajouter par rapport au listing des actions qui ont été menées, justement, pour améliorer la vie au travail des agents. On a également mis en place une action sociale bien plus intéressante, en payant moins, en ayant plus de services.
Merci. D'autres interventions ? Oui, monsieur Chauvet.
Oui, merci, monsieur le maire. Effectivement, on ne parlait pas des avantages financiers. Et croyez bien que, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas du tout avec plaisir qu'on parlait de ces sujets-là. Ce n'est pas des sujets qui nous font plaisir. On préférait aussi dire que tout va bien. Donc, dire qu'on fait ça pour la politicienne, je trouve que c'est dommage. Et pour le coup, je trouve que c'est effectivement pas respectueux pour les agents qui nous ont interpellés.
Moi, je vous ai jamais entendu dire que tout allait bien. J'aimerais bien entendre un moment que tout va bien. Quand ça va bien, je vous ai jamais entendu le dire. Par contre, quand vous affirmez ça, ça veut dire qu'effectivement, vous avez eu contact avec l'ensemble des personnels et 250 personnes qui travaillent à la mairie. Donc, si vous avez ça, effectivement, ben, là, vous avez intérêt à me faire un rapport assez précis parce qu'effectivement, on agira. Sauf que moi, je n'ai pas les mêmes retours du tout et je ne suis pas le seul. Les élus également du groupe majoritaire n'ont pas ce retour-là. Les cadres non plus n'ont pas ces retours-là. Donc si on a un retour différent, ça veut dire que ce qu'ils vous disent à vous n'est pas la même chose qu'ils nous disent à nous. En tout cas, je peux vous affirmer, et nous sommes très vigilants, et le directeur général, et moi, et l'ensemble des élus, et l'ensemble des cadres et des services, pour que les personnels travaillent dans de bonnes conditions et soient satisfaits de leur mission et de leur travail. Voilà. Et j'en arrêterai là, parce que je pense que là, vous poussez un peu trop, et vous êtes vraiment, on n'est vraiment pas d'accord avec vous sur ce sujet-là. Et encore une fois, c'est trop facile de faire de la politique sur le dos des personnels. Et je trouve que, pour ma part, et c'est mon opinion, je trouve que c'est indécent et irrespectueux vis-à-vis du personnel. Je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Délibération numéro 7 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8 concernant les ressources humaines avec un recours au contrat par alternance ou de professionnalisation. Alors on propose, ça fait un moment qu'on regarde avec les services pour accepter des alternants, prendre des étudiants en tout cas en alternance. On a des demandes qu'on avait toujours refusées. On a travaillé là aussi avec les services et les services maintenant sont motivés. Il a fallu là aussi réorganiser ces services pour pouvoir accepter des alternants. Jusqu'à maintenant, on ne les acceptait pas parce qu'on n'avait pas les structures pour les accepter. Donc là, l'ensemble des personnels et des services est motivé pour prendre ces alternants. Et on arrive à embaucher 8 alternants. Donc c'est bien d'abord pour les jeunes, c'est bien pour les étudiants. Hein, moi, je remercie les services et puis notamment le directeur général d'être parti sur cette mission-là, sachant que les apprentis, puisque ce sont des apprentis, on a deux apprentis, dont le coût de formation s'élève à 6 000 euros par apprenti, et c'est pris en charge en total, à 50% par le CNFPT et à 50% par les aides de l'État, ce qui fait que c'est pris en charge effectivement à 100%, c'est 6 000 euros par le CNFPT avec lui qui touche une subvention de l'État. Donc nous, c'est pour les apprentis, notre coût mensuel, on a uniquement une rémunération quand ils sont là et qui se monte à 861 euros par mois, ce qui fait 11 194 par apprenti, parce qu'il y a le 13e mois, vous savez, à Cessenage, le personnel a aussi le 13e mois à Cessenage, donc ce qui fait 11 194 € pour l'apprenti. Et quand c'est des c'est des contrats d'apprentissage hein, en fonction du... Voilà, donc on en a deux qui vont aller à la crèche, un auxiliaire puéricultrice ou CAEP, un en CAP plomberie, un en licence et ou master sur les ressources humaines, un dans l'administratif, qui a un bac d'ailleurs, un bac administratif, un community manager, alors c'est en anglais, j'aimerais mieux que ce soit en français, mais c'est, en tout cas c'est sur la com, sur le terme, et puis deux masters en aménagement du territoire et développement durable, donc sur l'aménagement urbain. Chargé des réseaux, effectivement. Est-ce que vous avez des questions ou des interventions sur cette délibération, qui est une bonne délibération? Là, il faut le dire que c'est bien. Non? Oui, Roxane.
L'alternance est un véritable tremplin pour les jeunes. Ouais. Donc, je pense qu'on peut se féliciter que la ville de Cessenage permette également aux jeunes de proposer des contrats en alternance, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation.
C'est vrai, ça permet de trouver leur voie. D'ailleurs, puisqu'on a un peu de temps avec le conseil n'est pas trop chargé et que le directeur général avait peur que ça se termine trop tôt, juste une anecdote. Il y a, vous connaissez tous le fleuriste Eric qui est au PI, qui son commerce marchait plus ou moins bien parce que c'est un artiste, hein, c'est un fleuriste mais un artiste, et qui vend un peu cher ses œuvres. Mais en tout cas, il fonctionne. Et il ne voulait pas prendre d'employés. Il a pris quelques employés, des professionnels, mais qui ne répondaient pas à sa demande, qui se trompaient, qui ne fonctionnaient pas. Il en a envoyé plusieurs. Et un jour, il est en train de décharger la voiture. Et il y a un jeune qui est arrivé, qui lui a dit « Monsieur, voilà, je suis en train de me réorienter et je voudrais travailler dans les fleurs ou en tout cas dans l'environnement, mais surtout les fleurs, ça m'intéresse, magasin. » Et lui a dit « Écoute, t'es gentil, mais moi, j'ai besoin de personne, quoi. Je ne peux pas embaucher quelqu'un et j'ai pas les moyens, en tout cas, d'embaucher quelqu'un et je peux prendre personne. » Et le jeune lui a dit « Écoutez, je vois que vous déchargez votre voiture, mais je peux vous aider. Est-ce que je peux vous aider ?» Le gars, il a dit « Non, c'est pas la peine. » Eric lui a dit « Non, je suis suffisamment grand et puis je vais me débrouiller. J'ai l'habitude, je me débrouille tout seul. » Et le jeune, il a quand même aidé. Il a pris les cassettes et il a aidé. Eric a déchargé, est rentré dans le magasin. Ces trucs. Une fois qu'il était dans le magasin, ils ont discuté. Voilà. Et puis Eric a vu que ce jeune était très intéressé, il demandait juste un stage en fait, hein, pas être embauché mais un stage, et ça c'était au mois d'octobre, fin octobre l'année dernière, et un stage pour le 1er janvier. Et après avoir discuté, il a vu que ce jeune était motivé, qu'il discutait bien, etc. Ils ont discuté un peu, il lui demandait des tuyaux sur la technique, sur les fleurs, enfin comment il aménageait tout ça. Et Eric lui dit « Écoute, j'accepte de te prendre en stage en janvier. Tu viens le 2 janvier et je te prends, pas de souci, je te prends en stage. » Il est venu en stage, il était à l'heure le 2 janvier. Et il a commencé son stage et Eric était très très content parce que c'était au moins quelqu'un qui écoutait. Et Eric avait envie de transmettre toutes ses connaissances. Et donc il l'a transmis, le jeune a écouté, le jeune est vis-à-vis des clients, il est très, très commercial, il est très gentil, et puis il écoute Eric quand il lui dit quelque chose, contrairement aux employés qu'il a eu avant qui n'écoutaient pas, qui savaient tout faire mais qui n'écoutaient pas. Lui il écoute et il fait les choses bien, et finalement il a embauché au bout d'un an, donc il a eu une aide du RSA, une aide du département, et il l'a embauché au bout d'un an, il a pendant un an encore une aide de l'État. Le jeune a déménagé, il est venu habiter sur Cessenage pour être plus rapidement au magasin, et il est très présent au commerce, et ce qui fait qu'Eric veut lui transmettre petit à petit tout son savoir, et peut-être son magasin quand il arrêtera. Donc voilà, c'est une belle histoire, effectivement, comme le disait Roxane, quand les jeunes y veulent, ça leur donne un coup de pouce, et effectivement, de les prendre en alternance, c'est leur ouvrir une voie au travail, la connaissance du travail, et des fois, les prendre sur ce qui les intéresse, des fois l'école les intéresse moins, mais le travail les intéresse, et c'est essayer de les pousser et de trouver leur voie. Hein, où les jeunes, des fois, certains ont du mal à trouver leur voie, et c'est un moyen de trouver la voie. Donc voilà, vous pouvez le dire que c'est une bonne délibération, donc je pense que tout le monde va voter pour. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 9 avec la création de... Mais c'est encore moi qui interviens, mais il n'y a que moi qui interviens dans ce conseil, là. création d'un comité social territorial unique, là c'est la loi, hein, qui nous demande de réunir donc entre le CCS et la commune, de transformer le comité technique que l'on avait entre un, et puis on avait un comité social de CHSCT, ouais, de réunir les deux en un seul comité qui est le comité social territorial. Il y aura les mêmes personnes, les mêmes intervenants, les mêmes représentants du personnel, les mêmes élus. On crée un seul comité, encore une fois, qui s'appellera comité social territorial. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Oui. Oui, monsieur Chauvet, à la parole.
Merci, monsieur le maire. Bien évidemment, nous voterons pour cette délibération, car la création de ce comité est une obligation légale. Néanmoins, nous souhaitions réitérer une demande que nous avons déjà faite à plusieurs reprises. Donc, selon l'article 6 du décret 2021-571 du 10 mai 2021, chaque comité social territorial est composé à nombre égal de représentants des élus et de représentants du personnel. Nous demandons donc ici solennellement que les 5 représentants de notre assemblée délibérante qui siégeront au futur comité social technique soient choisis sur la base de la proportionnalité, soit 4 représentants du groupe majoritaire et un représentant du groupe minoritaire. La participation des oppositions acterait le fait que vous souhaitiez que tous les élus soient pleinement acteurs de la vie de la municipalité, et ceci constituerait une suite logique à la création des commissions municipales. Merci.
Monsieur Chauvet, et puis là, j'interpelle tout le groupe. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à vous intégrer. On n'est pas obligé de le faire dans le CT. Il n'y a aucune obligation. C'est une commission. Il n'y a pas d'obligation. J'étais prêt à le faire. Mais eu égard à la publication de votre article, qu'encore une fois, je trouve discriminatoire vis-à-vis du personnel, je ne vois pas comment je peux vous intégrer dans un comité qui rencontre les représentants du personnel. Aujourd'hui, ce comité fonctionne bien. Il y a des échanges qui sont cordiaux. Des échanges avec les représentants du personnel, entre les représentants du personnel et les élus, qui fonctionnent bien. Les échanges sont positifs. Donc je ne vois pas pourquoi et comment on intégrerait des gens qui discriminent le personnel. Voilà. Donc montrez-moi que je peux avoir confiance. C'est ce que je vous ai dit en début de mandat. Montrez-moi que je peux avoir confiance en vous, et notamment sur le personnel, et peut-être qu'on reverra la décision. Pour l'instant, il n'en est pas question. Oui, monsieur Chauvet.
Merci pour votre réponse, monsieur le maire. En fait, je pense que ce que vous attendez de nous, c'est qu'on dise oui à tout ce que vous dites. Vous oubliez juste qu'on est et on restera indépendant. Et ce qui s'est passé récemment au Conseil montre que d'autres ici en ont envie. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on peut émettre des critiques qu'on est forcément contre vous. Vous savez, les choses ne sont pas binaires. On est obligé d'être toujours pour ou toujours contre. Et je pense que vous, dans d'autres instances, vous n'êtes pas non plus binaire. Donc il faut aussi parfois faire preuve un peu d'ouverture d'esprit. Je vous assure que c'est une bonne chose.
Merci, monsieur Chauvet, pour la leçon. Mais je n'ai pas attendu, en tout cas, je n'ai pas attendu votre conseil pour poursuivre vos leçons. Et il me semble que par le passé et encore aujourd'hui, j'ai montré suffisamment mon esprit d'ouverture. Donc il y a esprit d'ouverture quand la confiance est là et quand on est dans l'ensemble. Je n'ai jamais demandé à ce que vous soyez tout à fait et toujours d'accord avec nous. J'admets effectivement les remarques, j'admets les différences de pensée, les différences de... Et je suis d'ailleurs assez connu pour ça, hein, d'accepter en tout cas ces différences de discussion. Et je le dis tout le monde, je le dis tout le temps et j'applique la citation de Saint-Exupéry qui dit « Nous sommes tous différents ». Mais l'important, en tout cas, heureusement que nous sommes différents, parce qu'à un moment, ben, ça nous permet de progresser et d'être plus intelligents. Donc c'est en tout cas ma devise. Donc j'accepte que nous soyons différents, j'accepte pas. Par contre, je n'accepte pas qu'on... alors je ne vais pas dire insulter, mais je n'accepte pas qu'il y ait des discriminations. Et pour moi, votre article sur le personnel est une discrimination. Voilà, un manque de confiance dans notre gestion et dans nos relations vis-à-vis du personnel. Donc ce manque de confiance, je ne sais pas pourquoi on va pouvoir encore une fois l'augmenter par votre présence. Donc montrez-moi, je vous demande juste une confiance. Et la confiance, ça veut dire qu'on se parle franchement, mais qu'on ne dit pas des choses sur des articles, qu'on n'écrit pas des choses qui sont faux. Et je considère que c'est absolument absolument faux et je ne considère pas. J'affirme que votre article est faux. Si votre article avait été juste, et ce que j'ai déjà passé par le passé, vous savez, j'en ai eu avant vous hein, des opposants qui auraient écrit des articles. Et quand je considère qu'ils sont justes, eh bien, je les admets et on essaye de travailler pour y remédier. Et là, je considère totalement que c'est une insulte vis-à-vis de moi, mais une discrimination, et je le prends comme une insulte vis-à-vis de moi, parce que je suis responsable de la gestion des personnels. Donc si vous ne faites pas confiance dans la gestion du personnel, je le prends très très mal, et je l'ai pris très très mal. Donc j'ai laissé passer votre article, il est passé, je l'ai assumé, mais sachez que je l'ai pris très très mal. Donc voilà, je ne peux pas vous faire confiance en ce qui concerne en tout cas la gestion du personnel. Donc je refuse, et je le dis clairement haut et clair, en tout cas je refuse de vous intégrer dans ce comité technique et social. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Délibération suivante concernant, encore moi, mais dis donc, il n'y a que moi qui travaille ce soir. Ajustement des effectifs et des emplois. Donc c'est la délibération, on a essayé de faire, enfin les services ont essayé de faire un tableau un peu plus compréhensif. Hein, d'ailleurs, conformément à ce que vous aviez demandé à ce que ce soit un peu plus clair. Donc est-ce qu'on mette les emplois qui sont à supprimer d'un côté, les emplois à créer de l'autre? Donc il y a certains emplois, notamment, qui sont supprimés dans... Vous savez, c'est... Là aussi, on a demandé des informations juridiques, même si là, on avait la connaissance de ces informations. Quand on supprime des emplois parce qu'un employé passe un grade supérieur ou change d'emploi, soit on conserve l'emploi et on le maintient et on ne dit rien à personne et il est maintenu, mais il reste dans le budget, il faut le budgétiser parce que l'emploi est maintenu. Soit si l'emploi n'est pas remplacé parce que c'est uniquement une progression ou un changement d'emploi, un remaniement en tout cas de l'ensemble d'une restructuration des services, si on supprime l'emploi, on préfère le supprimer en tout cas parce que ça supprime le budget qui lui est affecté. Et effectivement, faut que ça passe quand il y a suppression. Comme il y a un budget qui est affecté à ces emplois, autant en création d'ailleurs qu'en suppression, et bien, comme on affecte un budget pour la création d'emplois, à l'inverse, quand on supprime, et bien, on supprime un budget, donc il faut qu'on passe en conseil, puisque ça touche le budget. Donc c'est obligatoire que ça passe en conseil, et c'est pour ça qu'on passe ces délibérations, qui ne sont que des délibérations administratives et de recadrage des emplois, des postes, en tout cas, pas des emplois, mais des postes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a des délibérations dès qu'il y a changement de poste. Mais c'est uniquement une délibération administrative qui a effet, bien entendu, sur le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 11 concernant la fixation du prix de la vacation funéraire au bénéfice des policiers municipaux. C'est une délibération qui arrive un peu tard, parce que cette délibération arrivée était applicable pendant le temps de Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années déjà, auparavant, les policiers avaient mission d'aller fermer les cercueils quand il y avait un décès sur la commune. Fermer les cercueils, quand on va fermer le cercueil, c'est vérifier que la personne, c'est bien celle, en tout cas. Donc, il faut regarder le rapport du médecin légiste qui, normalement, est là. Et derrière, on ferme le cercueil et on le scelle avec de la cire pour que personne puisse les rouvrir, en tout cas, où il y a marque. Donc, avant, c'était la police. Il y a de nombreuses années, c'était la police municipale qui le faisait. Puis ensuite, les pompes funèbres, et notamment les PFI, ont eu la compétence qui a été transférée, on a eu la compétence pour fermer les cercueils en collaboration avec les médecins légistes. Sauf que c'est fait parce que dans le cercueil, il y a la famille qui est présente, enfin, tout le monde. Sauf que pendant le Covid, la famille n'était pas là puisqu'on fermait en urgence. Hein, et ça s'est passé, il y a eu quelques cas à domicile, quelques cas à l'EHPAD. Et beaucoup d'élus, d'ailleurs certains élus d'entre nous, enfin des adjoints, parce qu'il faut être officier de police judiciaire, judiciaire. Ouais. Et on est allé fermer des cercueils et les sceller, notamment des week-ends. Hein. Et puis après, c'était pendant la période dure du Covid, entre mars et août 2020. Ensuite, quand ça s'est détendu un peu, on a confié ça à la police municipale. Et la police municipale avait cette mission. Donc, on ne les a pas rémunérés pour ce supplément de travail, même si En majorité, c'était pendant leurs heures de travail, mais c'est arrivé quelquefois, c'était en dehors de leurs heures de travail. Bon, ils ont été rémunérés hein, pour leurs heures de travail supplémentaires, mais on doit fixer une vacation qui est légale, une vacation pour la funéraire, et qui oscille entre 20 et 25 euros. En accord avec eux, on vous propose, puisqu'ils ont été payés de toute façon sur la mission, on vous propose de le mettre à 20 euros, c'est juste pour pouvoir comment les payer et, rétroactivement sur ces missions-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Merci, délibération numéro 11, adoptée l'unanimité. Et enfin, pour la délibération numéro 12, je vais passer la parole à Jean-Pierre Serraillet, adjoint à l'urbanisme.
Bonsoir à tous. Donc il s'agit d'une délibération concernant un avenant à la convention d'occupation précaire avec Fruits Mobiles et une autorisation de dépôt d'une autorisation d'urbanisme. Donc en 2013, la ville donc, a signé une convention précaire avec Fruits Mobiles concernant l'installation d'une antenne. Aujourd'hui, ben, comme tous les fournisseurs, eh bien, il y a des aménagements pour installer la 5G sur les antennes. Ces travaux, en fait, ont nécessité de changer le mât, et le mât dépassait en fait le règlement autorisé en termes du PLU. Et donc ils ont trouvé une autre solution finalement, donc de technique. Ils ont changé le bout de l'antenne et ils avaient besoin de faire un local qui fait 2 mètres carrés. Et donc tout ça rentrait dans le règlement. Nous en avons profité en fait pour renégocier la convention qui était donc avec un coût de 8000 euros par an, donc nous l'avons passé à 11000 euros. Donc c'est ça donc qu'il faut signer et autoriser monsieur le maire donc à signer donc avec la société Fruits Mobiles cet avenant et d'autoriser également Fruits Mobiles à déposer l'autorisation d'urbanisme.
Merci Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Farid.
Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Nous souhaitons expliquer notre position concernant le déploiement de la 5G et en particulier l'exposition aux ondes électromagnétiques pour nos concitoyens. Rappelons quelques faits. La CCC, Convention citoyenne pour le climat, a préconisé un moratoire sur le déploiement de la 5G. Nous soutenons cette position. Il est temps d'arrêter de justifier par le progrès l'arrivée d'une énième 6G qui ne fait qu'augmenter la pollution d'ondes, la consommation énergétique, la multiplication de notre dépendance aux objets connectés et aux écrans. Alors que la 4G n'est pas encore correctement déployée, nous passons à la 5G et bientôt à la 6G. Les évolutions souhaitées comme la télémédecine ou la voiture autonome, par exemple, sont déjà possibles avec la fibre et la 4G. Cette fuite en avant ne fait qu'augmenter la consommation d'énergie électrique, alors que tout indique que nous devons la réduire. Comme l'indique l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'empreinte carbone du secteur numérique pourrait doubler d'ici à 2025 avec une émission de gaz à effet de serre massive liée à un accroissement de la consommation énergétique et à la consommation de ressources et des terres rares utilisées à la fabrication des équipements 5G, comme les nouveaux smartphones, les objets connectés, etc. La 5G est incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Sur le plan sanitaire, une étude menée par l'Université brésilienne de Belo Horizonte en 2011 et sur 10 ans montre bien l'augmentation des décès par tumeur dans un rayon d'un kilomètre autour des antennes relais qui émettent fortement avec un pic aux alentours des 300 mètres. Les limitations réglementaires aujourd'hui de 61 volts mètres sont insuffisantes. Elles doivent être complétées par des règles locales pour tenir compte de la proximité aux habitations. La multiplication des émissions d'ondes électromagnétiques est un danger pour notre santé et en particulier pour nos enfants dont la boîte crânienne est 4 fois plus sensible aux ondes. Nous vous demandons ici de prendre des mesures nécessaires pour contrôler la puissance des ondes électromagnétiques existantes dans les écoles et crèches de notre commune. Nous sommes disposés à échanger avec vous sur les modalités pratiques. Par conséquent, comprenez, chers collègues, que nous ne pouvons voter pour l'installation d'une antenne 5G dans notre commune. Cependant, nous saluons le fait que l'antenne en question soit installée aux îles, c'est-à-dire loin des habitations de nos concitoyens. Il serait souhaitable d'ailleurs que cela soit le cas pour toutes les antennes de notre commune. Par principe, et bien que le débat sur la 5G dépasse largement les frontières de la commune, nous votons contre cette délibération. Merci.
Merci Farid. Alors vous voyez, par exemple, cette délibération, je comprends tout à fait votre position. Hein. je comprends et je ne vais pas dire que je soutiens, mais en tout cas, je comprends votre position. Elle est tout à fait dans la lignée de votre démarche et je la respecte totalement. On a fait attention pour ça et dans les négociations qu'on a eues avec l'opérateur, on préférait, en tout cas, puisque l'antenne existe déjà, hein. Elle existe pour le 4G, elle existe sur les îles, on préférait qu'ils mettent le 5G sur cette même antenne, qu'ils rajoutent, puisqu'elle est effectivement assez isolée des habitations et des écoles et des crèches, etc. Mais on préférait qu'ils rajoutent sur ce mal-là plutôt qu'on refuse et qu'il aille mettre son antenne chez un privé. Et vous savez que chez les privés, à partir du moment où ça respecte les règles d'urbanisme, on ne peut pas s'opposer. Ben, vous le savez bien. On peut discuter, mais on ne peut pas s'opposer. Il y a une loi là-dessus. Nous, on doit regarder que les règles d'urbanisme, on ne veut pas regarder le reste. On s'est opposé à une antenne, l'installation d'une antenne qui devait être installée aux côtes. Et là, effectivement, par les règles d'urbanisme, on a réussi à s'opposer. Mais on ne pourra pas s'opposer de partout, et en tout cas dans les lieux privés. Voilà. Donc là, ça a été notre mission, et de dire, on préfère utiliser un mic qui existe, une antenne qui existe déjà, plutôt qu'ils aillent s'installer ailleurs. De toute façon, il faut qu'ils maillent leur... Vous savez, ils ont fait des études, parce qu'ils viennent tous nous voir. Il faut qu'ils maillent leur territoire, et ils savent à peu près où il faut installer les antennes. Et ils sont en train de négocier avec beaucoup de privés, hein, sur notre commune, mais sur l'ensemble des communes. Parce qu'encore une fois, le 5G, il faut plus d'antennes, mais moins de puissance, mais plus d'antennes. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris en discussion avec eux. Donc ils sont en train de négocier un peu de partout avec les privés pour mettre sur les toits des immeubles, pour en mettre un peu de partout. Bon, en tout cas, nous, tant qu'on peut négocier, on négocie avec eux. Et là, je pense que c'est une bonne délibération qui protège effectivement les Sassenageois. Ouais, c'était en tout cas la meilleure solution pour que ça protège les Sassenageois du mieux possible. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 8 abstentions, comptez ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Ah, avec ma réponse, j'aurais espéré que vous puissiez. Non, mais je respecte votre vote, il n'y a pas de souci. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Donc 8 oppositions, merci. Je vois que ce que je vous dis, hein, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon. Délibération numéro 13, donc délibération numéro 12, adoptée, moins 8 contre, opposition. Je répète à chaque fois, parce que comme c'est enregistré, comme ça c'est clair. Délibération numéro 13, une habilitation à me donner. Je passe la parole à Jean-Pierre Serraillard, à nouveau, adjoint à l'urbanisme.
Oui, donc c'est une habilitation à donner au maire, en fait, pour tous les travaux concernant les biens communaux. Et donc ces travaux, nous en avons deux sortes. Il y a donc la démolition de l'ancienne chambre funéraire du cimetière et de la falaise. Et puis la deuxième partie des travaux, ça concerne l'aménagement d'un espace numérique à la médiathèque. Donc voilà, il faut donner l'habilitation à M. le maire pour déposer en fait les autorisations d'urbanisme.
Je discutais avec le DGS qui me proposait d'éclairer. Je lui ai dit non, parce qu'il faut faire des économies d'énergie. Puis l'éclairage, ça propage des ondes. Donc si vous en êtes d'accord, on maintient la salle non éclairée. D'ailleurs, on travaille sur l'économie d'énergie, ouais, sur l'ensemble des services de la commune. On a lancé des actions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Vous avez raison, parce que les micros aussi, ça envoie des ondes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Délibération numéro 13 adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 14 concernant les conventions Ulysse. C'est une des délibérations qu'on voit régulièrement. Et je passe la parole à Christine Durand, adjointe à la vie scolaire.
La ville de Fontaine accueille un élève sassenageois dans le cadre des classes d'intégration spécialisée Ulysse. Aussi, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondant aux charges de fonctionnement pour un élève sur l'année scolaire 2020-2021. Le montant général s'élève donc à 1215,68 € pour cet élève.
Merci Christine. C'est une délibération courante. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que des questions ont été posées en commission. Je pense que vous avez eu les réponses. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Délibération numéro 14, adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 15, concernant la petite enfance multi-accueil. Et je passe la parole à Marie-Frédérique Diraphaël, qui est adjointe à la petite enfance. La jeunesse.
Bonsoir. Il convient d'acheter régulièrement du matériel pédagogique pour améliorer la qualité d'accueil des enfants, et notamment en situation d'handicap, pour la crèche, mais également pour le relais de petite enfance. Ce matériel peut prétendre à une subvention du département jusqu'à 2500 euros. C'est pourquoi je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires pour cette demande de subvention.
Merci Marie-Frédérique. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, vous avez eu la réponse en commission. Tout va bien, c'est parfait. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions, délibération numéro 15 adoptée l'unanimité ? C'était la dernière délibération. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Eh bien, je vous remercie. Je souhaite une bonne soirée. Prochain conseil au mois de juillet, mais vous avez l'ordre du jour des commissions et du conseil. Enfin, vous avez la date, pardon. Merci, bonne soirée en tout cas.